Je pense pas que quelqu'un qui aime Vialat puisse ne pas avoir d'humour.
Pierre Desproges.
J'ai découvert Vialat dans les toilettes du 18e régiment d'infanterie des transmissions l'hiver 60. Dans un journal qui s'appelait Spectacle du Monde, qui était une revue glacée de droite. Il écrivait des choses absolument sublimes n'importe où. Alors on pouvait très bien passer sa vie à côté.
Ça peut pas faire de mal.
Je me rappelle, j'ai arraché cette page, c'était pour la lire. Et qui commençait par le loup appelé ainsi à cause de ses grandes dents. Et j'ai passé une nuit de garde, la nuit de Noël 60, dans ma guérite de Troufion, prêt à partir pour l'Algérie, en apprenant par cœur ce truc. J'étais sidéré, ça a été un coup de cœur. Et maintenant, j'en suis à me relire, quand je relis mes copies, à essayer de virer les vialateries qui s'y glissent malgré moi.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Voilà tantôt 40 ans que j'écris des articles ou même des romans, ou plutôt, pour être plus précis, comment dire, des machins. C'est l'expression que Colette employait. Et je n'ai jamais eu de mal à trouver le commencement. Non plus qu'à écrire l'épilogue. Il n'y a qu'à mettre n'importe quoi, je l'ai déjà dit. J'ai donc toujours su faire, avec une grande aisance, la page 1 et la page 404. Mais ce qu'il faut mettre dans les 402 autres pages, qu'on ne me le demande jamais, car je ne l'ai jamais su. Toute expérience professionnelle a ses limites. Il y a deux pages que je sais faire dans un livre, qu'on ne m'interroge pas sur les autres. Tout au plus serais-je tenté de penser qu'entre la page 1 et la page 404, il vaudrait mieux mettre le plus de pensées possible. Ouais. À la réflexion, je conseillerais la pensée. On n'imagine pas l'importance que peut avoir la pensée dans un ouvrage écrit. Je sais bien qu'il est très difficile de faire deux choses à la fois, d'écrire et de penser en même temps, que la plupart des ouvrages qui paraissent aujourd'hui en sont l'éclatant témoignage, que la plupart des livres courants sont remplis d'un grand vide, comme l'ampoule électrique, mais sans filament lumineux. Je persiste donc dans ma lubie, mieux vaut penser en écrivant. Voyez Pascal, son plus grand ouvrage ne contient que des pensées, sans début ni fin. La chose lui a très bien réussi. Il nous reste à repenser l'homme, en attendant qu'à un cas, la littérature continue. Le comble de la littérature serait peut-être de ne rien dire. C'est que l'écrivain est rare, l'homme de lettres fréquent. Et celui-ci a intérêt à se faire passer pour l'autre. La postérité ne confond pas, et c'est ainsi qu'Allah est grand.
Cette joyeuse démonstration par l'absurde est signée par un auteur du siècle dernier qui s'est illustré par son sens de l'humour et ses traits d'esprit. Il se définit lui-même par cette phrase laconique, je cite, « Je me présente, Vialat, écrivain notoirement méconnu ». Né en 1901 dans une famille auvergnate, mort à Paris en 1971, Alexandre Vialat se fait d'abord connaître comme traducteur de Kafka. Puis, il publie entre 1928 et 1951 trois romans qui, hélas, ne rencontrent pas leur public. Il se tourne alors vers le journalisme et écrit pour de nombreuses revues, des plus sérieuses, la NRF, aux plus éclectiques, Le Spectacle du Monde, la Revue du Tiercé ou encore Marie-Claire. C'est dans la presse féminine où il lui arrive de parodier le courrier des lecteurs ou l'horoscope qu'il aiguise son goût pour le billet d'humeur et les canulars. Mais c'est surtout dans les 20 dernières années de sa vie, de 1951 à 1971, qu'il écrit régulièrement depuis Paris pour le quotidien d'Auvergne, La Montagne. Il y perfectionne son talent et rédige au total quelques 900 articles qui croquent l'air du temps. En 20 ans, Alexandre Vialat élève la chronique à un genre poétique à part entière qui tente d'approcher la vérité de l'homme sous les multiples apparats de l'actualité. Pour rendre hommage à cet amoureux du quotidien, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir un grand comédien qui partage son goût des mots et sa sensibilité de troubadour. Bonsoir François Morel.
Bonsoir Guillaume, merci.
Chaque vendredi matin, depuis 8 ans, vous enchantez les auditeurs de la matinale de France Inter par vos chroniques facétieuses. Merci de nous faire découvrir ce soir l'écriture d'Alexandre Vialat, qui, je crois, est l'un de vos modèles.
C'est-à-dire c'est une référence pour tous ceux qui écrivent des chroniques. Je l'ai connu par Pierre Desproges, qui le citait tout le temps. Et puis j'adore ça, j'adore la liberté du ton de Vialatte. Il est faussement superficiel, le fond n'est jamais loin de la forme, et c'est toujours ouvert et généreux.
En votre compagnie, faisons donc la connaissance de cet auteur atypique qui fait commencer chacun de ses textes par une référence à la plus haute antiquité et les conclut par cette incantation mystérieuse « Et c'est ainsi qu'Allah est grand ». Commençons, François Morel, par goûter le style de Vialatte à travers un choix de citations.
« L'homme n'est que poussière, c'est dire l'importance du plumeau. »
La vieillesse est l'âge le plus beau, malheureusement elle passe trop vite.
Nous vivons une époque où l'on se figure qu'on pense dès qu'on emploie un mot nouveau.
Rien n'arrête le progrès, il s'arrête tout seul.
Sauf erreur, je ne me trompe jamais.
Les principes, appuyez-vous sur eux, ils finissent par céder.
L'homme n'a de frontières que celles de son courage.
La gentillesse, c'est le courage qui sourit.
On ne peut plus être célèbre sans que tout le monde le sache.
Plus le singe monte haut, dit le proverbe hindou, et plus il montre son derrière.
Mourir, c'est difficile quand il n'y a pas de public.
Et comment faire pour prolonger la vie ? Vieillir, il n'y a pas d'autre méthode.
Le XXe siècle est le fils monstrueux d'Ubu et de Fantomas.
Nous vivons un siècle étonnant. Il va si vite qu'il se dépasse lui-même.
Qu'est-ce qui nous manque ? Nous avons tout pour être heureux. Voilà bien la question du siècle.
On a tout essayé. Le roman sans histoire, le roman ennuyeux, le roman sans talent. Peine perdue, on n'est parvenu qu'à créer le roman sans lecteur.
Le bonheur date de la plus haute antiquité. Il est quand même tout neuf car il a peu servi.
Témoin des petites choses de l'existence, Alexandre Vialatte se passionne pour son sujet, l'actualité. Découvrons cette chronique du 28 février 1968, où l'écrivain s'amuse à décrire le métier de journaliste. C'est l'époque glorieuse des Rouletabille et autres Tintin reporters. Sur le ton de la fable, l'écrivain remonte aux origines de notre société médiatique. Et je vous cède la parole, François Morel.
L'homme s'est de tout temps intéressé à l'homme. Il lui déclare des guerres mondiales, il le pend, il le brûle, il veut savoir ce qu'il fait, ce que mijote le voisin, ce qu'en a dit sa belle-sœur, où le sous-préfet est-il allé en vacances. Toutes ces choses le passionnent, il cherche à les savoir. Telle est l'origine de la presse. Elle lui raconte l'homme tous les matins. Les dictateurs barbus, les Chinois en colère, la lune de miel du garçon coiffeur qui a épousé la grande chanteuse, il y prend un plaisir extrême. Il apprend en même temps le temps qu'il a fait la veille, la meilleure marque de chaussettes et ce que j'ai fait de plus scandaleux par la vedette du film à la mode. Tous ces renseignements lui bourdonnent la tête. Il les rapporte à son chef de bureau, il s'émerveille de voir les grands hommes aussi simples. Ces événements, qui les raconte ? Le journaliste, le reporter, l'envoyé spécial. Car l'homme ne vit pas seulement du pain du boulanger, mais aussi du récit des événements de la veille. Et c'est pourquoi le monde est couvert de journalistes qui vont et viennent dans tous les sens, les uns à bicyclette, les autres en avion, d'autres encore dans de rapides automobiles qui volent à la vitesse du vent. Ils empruntent les téléphériques, les autostrades et les routes nationales. On les trouve sur les cimes et les chemins vicinaux.
Mes chers auditeurs, j'ai un pied sur un rocher. Au bord d'une crevasse, je vais essayer de déplacer le micro pour faire entendre la cascade tumultueuse qui coule. Écoutez la cascade tumultueuse.
Pendu au bout d'un parachute, il filme les parachutistes. Lancé à ski sur une pente redoutable, il filme les champions de ski. Pour avoir le genou plus à l'aise, ils portent une culotte de golf et mettent un costume à carreaux. C'est ainsi qu'ils peuvent satisfaire les exigences de la curiosité des hommes. Car l'homme a commencé par la curiosité qui le fit chasser du paradis terrestre et ne se survit dans son grand âge que grâce à elle. C'est son premier et son dernier péché. On aurait tort de croire que tous les journalistes portent un veston à carreaux. D'autres s'habillent comme Fantomas avec une cape et un haut de forme pour assister à la première de toutes les pièces dans des théâtres illuminés. Ensuite, cachés dans les coulisses, ils surprennent les secrets des acteurs. Le lendemain matin, dans leur chronique, ils font la gloire des dramaturges et racontent les plus beaux divorces. Et même quand ce n'est pas vrai, c'est rudement bien inventé. Et les actrices sont très contentes. D'autres encore se dissimulent à la Chambre des députés pour révéler les dessous de la politique mondiale. D'autres encore composent des mots croisés et des charades pour charmer les loisirs de l'homme. D'autres enfin organisent des concours où le lecteur peut gagner un superbe lapin. Aussi la presse a-t-elle toutes les faveurs de l'homme. Elle lui est devenue indispensable. Le journaliste est l'homme de l'avenir. Et c'est ainsi qu'Allah est grand.
Selon Alexandre Vialat, l'activité du journaliste ne diffère pas de celle de l'écrivain. L'écriture n'est jamais loin de la poésie. L'actualité existe-t-elle? Elle est du jour et elle meurt à peine née. Sa nature est d'être éphémère, son essence est d'être inactuelle dans la minute même qui la suit. L'actualité la plus répandue est celle dont les journaux parlent le moins. Le solstice, la neige, la Saint-Sylvestre, les saisons, la première fleur, la dernière feuille. Où est le journal qui parle de l'aube? L'aube, suprême curiosité de l'homme. C'est le dernier vice qui lui reste. Il a vu le jour. Il ne cesse de vouloir le revoir. Au bout du compte, l'homme de la grande actualité, ce n'est peut-être pas le journaliste, mais le poète. Son actualité ne se fane pas. S'il y a un sujet éternel pour Alexandre Vialat, c'est celui de l'enfance. Découvrons ce texte rempli de tendresse et de mélancolie. Extrait de la chronique intitulée « Chronique des vieux hommes, des vieilles maisons », datée du 25 août 1964. Et je vous confie, François Morel, ce petit éloge des grandes vacances.
J'ai déjà dit la lune des vieux jardins sur la montagne. Au fond des vieux jardins, il y a les vieilles maisons. Ce sont les vieilles maisons qui font les grandes vacances. Les vieilles maisons font voyager bien plus que les autres. Leur silence est plein de chuchotements. Elles mènent très loin quand elles commencent à bavarder. Quelquefois, un arceau de croquet se rouille encore dans l'herbe où passe à une allée. D'anciennes jeunes filles reviennent peut-être à certaines heures. Qui sait ce qui se passe quand on n'est pas là? Le vieux lilas est plein d'escargots. L'humidité a pourri la tonnelle. Une collection complète du journal des enfants, entre une vieille malle et un cheval jupon, attend au grenier, sous la poussière, la curiosité d'un collégien. Le dernier qui l'a lu, enseigne de vaisseau, est mort au Tonkin, sous Courbet. On peut voir sa photographie dans une chambre nue, brûlée de soleil, dont la fenêtre donne sur de hautes fleurs jaunes, derrière lesquelles il y a 20 kilomètres d'horizon. 80 ans ont passé depuis ces choses. Les enfants changent, les rêves demeurent et les attendent dans les mêmes coins des mêmes greniers. L'Orient, la mer et l'aventure entrent toujours par la même lucarne qui éclaire le même cheval jupon.
Suspendons encore un peu le temps avec cette autre réflexion poétique de Vialat. Voici un extrait de la chronique du temps qu'on dit perdu. Datée du 2 juillet 1957, l'été et son rythme ralenti inspirent aux journalistes une belle rêverie. Le temps perdu se retrouve toujours. On dit qu'il ne se rattrape jamais, c'est bien possible. Un grand professeur de Normal disait à ses élèves « Lisez, mais au hasard ». Lisez sans nul programme. C'est le seul moyen de féconder l'esprit. On ne peut savoir qu'après coup si le temps est perdu ou non. Sans le temps perdu, qu'est-ce qui existerait? La pomme de Newton est fille du temps perdu. C'est le temps qui invente, qui crée. Et il y a deux littératures. Celle du temps perdu, qui a donné Don Quichotte, et celle du temps utilisé, qui a donné les feuilletonistes. Celle du temps perdu est la bonne. Le temps perdu se retrouve toujours 100 ans après. On croit que l'intérêt mène les hommes, ce n'est pas vrai. Ce sont les passions. Et la passion, c'est le rêve. Et le rêve, c'est le temps perdu. Le temps perdu mène le monde. L'homme l'a si bien senti qu'il s'en est fait un but. Le progrès industriel vise à faire de sa vie une période de loisirs sans fin, et c'est là qu'il se trompe. Le temps perdu exprès cesse d'être fécond.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
On croit toujours qu'on a le temps. Et puis le temps s'en va. On dit pas tout, on n'avoue pas. Au fond de soi, ses sentiments. On joue les forts, les fiers à bras. Les effrontés, les insolents. On prend le genre impertinent et des allures de pacha. Parfois on rêve entre ses bras de pouvoir serrer des géants. On croit toujours qu'on a le temps. Et puis l'amour, l'amour s'en va. Tu veux des gondoles à Venise. Tu as ta mobilette à Berck. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour faire avec, faut faire avec. Tu veux des gondoles à Venise. Tu as ta mobilette à Berck. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut faire avec, faut faire avec. On croit toujours qu'on a le temps. C'est le temps qui nous a. On voudrait vivre comme un roi, avec le ciel être arrogant. Parfois on rêve entre ses draps de pouvoir aimer des géants. On croit toujours qu'on a le temps. Et puis la vie s'en va. Tu veux des gondoles à Venise. Tu as ta mobilette à Berck. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut faire avec, faut faire avec. Tu veux des gondoles à Venise. Tu as ta mobilette à Berck. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut faire avec, faut faire avec. N'attends pas trop la mi-carême. N'attends pas trop les chrysanthèmes. Au mieux pas trop tarder quand même. Si on voulait se dire je t'aime. Tu veux des gondoles à Venise. Tu as ta mobilette à Berck. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut faire avec, faut faire avec. Tu veux des gondoles à Venise. Tu as ta mobilette à Berck. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut faire avec, faut faire avec.
Je crois que nous devrions parler de certaines des sources de l'œuvre d'Alexandre Vialat, à savoir le fameux catalogue Manu France.
Le catalogue Manu France, parce que c'est un ramassis de choses grandes et magnifiques.
Alexandre Vialat.
Il y a le paletot pour chien. Le paletot pour chien avec poche-poitrine et col officier.
Oh là.
La botte pour chien à trois boutons. Et la même pour 25 centimes de moins.
Et le chapeau
deux boutons pour Basset.
Le chapeau pour chasseur ou pêcheur, là, avec les feuilles, là, qu'est-ce que c'est?
Ah, il y a toutes sortes de chapeaux.
Chapeaux.
Qui sont conçus pour le confort de l'explorateur. Parce que le catalogue de la manufacture de Saint-Étienne vise deux clients, l'explorateur et le bureaucrate. Alors, il y a 6 pages d'essuie-plumes et 6 pages de casques coloniaux, de chapeaux melons à trépied qu'on pose sur sa tête. Ils sont obsédés par la question des courants d'air qui rafraîchissent le crâne. Ils sont des clients chauds qu'il faut refroidir un peu.
Passionné par les éphémérides et les horoscopes, Alexandre Vialat fait l'éloge d'un ouvrage populaire qui célèbre autant la vie de la nature que la vie de l'esprit, l'almanach Vermeaux.
L'almanach Vermeaux est une grande chose. La vitesse du son l'émerveille. Il sait le tour du crâne de Mozart, la surface de l'homme, le volume de la puce et la valeur des décimales du nombre pi. Il donne l'adresse du monsieur qui vend la pierre à fleurs. Elle raffermit les seins. En un mot, l'almanach Vermeaux, c'est tout ce qu'il est bon d'ignorer. Bon, prenez-le entre la main droite et la main gauche dans le sens de la diagonale et posez-le sur un torchon de cuisine. Roulez le torchon, humectez et tordez au-dessus d'une marmite en cuivre, comme ma grand-mère pour la peler des coins. Supposez un torchon qui retienne les plaisanteries, les monologues comiques, les saines jovialités, bref, tout ce qui fait de l'almanach Vermeaux cette bible du bel esprit. Vous aurez au fond du chaudron la matière savante qui reste de ce grand ouvrage. tournez ce brouet avec une longue cuillère en bois, vous obtenez le livre des merveilles.
Parodiant l'illustre almanach, le journaliste développe ses propres conseils, proverbes et autres fables du temps qui passe. Voici quelques extraits de l'almanach d'Alexandre Vialat, paru entre 1963 et 1966 dans la revue Marie-Claire. Commençons l'année par le printemps. À vous la parole, François.
Mars. Le printemps ramène sur Terre la saison des amours. La puissance de l'amour se fait sentir partout. L'homme n'échappe pas à cette loi. Les femmes, disait Victor Hugo, se prennent comme les lapins, par les oreilles. Le mâle cherche à briller. Louison Bobet tourna 6 jours sur une piste cimentée. Le regretté James Dean, dans sa fureur de vivre, se jetait en auto du haut d'une falaise.
Juin. On ne se méfie jamais assez de l'intelligence. L'intelligence rend l'homme pensif. C'est un état qu'il ne supporte pas quand il n'en a pas l'habitude. Il tombe dans la neurasthénie et parfois même dans l'arythmomanie. Il compte alors les lames de son plancher, les livres qu'il a lus, les rinceaux du plafond. Il se trompe, recommence, il fait peine à voir. On voit par là les gros dangers de l'intelligence. L'homme se fane comme l'herbe des champs. De longues vacances sont à prescrire immédiatement. Laissez votre femme faire les valises.
Octobre. Voici octobre et la nuit tombe plus tôt. Le crachin empêche de sortir. C'est le vrai temps de lire des romans policiers, de préférence devant un feu de coke. L'intoxication vient plus vite. Il ne faut pas oublier, en effet, que le roman dit policier, né en gros des brouillards de Londres, en a gardé les vertus stupéfiantes. Monté avec la précision d'un mécanisme d'horlogerie, il provoque vite, par son tic-tac, une sorte d'état second dans lequel on ne se soucie plus de l'heure exacte. Le ronron importe seul.
Flip-flap, le fameux shampoing de vêtements. Flip-flap. Flip-flap, soigne vos cheveux en les lavant. Flip-flap, flip-flap.
Témoin attentif de son époque, Alexandre Vialat croque à merveille les 1000 détails qui font la grandeur et la décadence de la vie moderne. Bienvenue dans la société de masse et la société de consommation des années 50-60 qui ressemble étrangement à la nôtre. C'est l'heure de gloire de la presse People et des stars américaines, des arts ménagers et de la réclame, de l'industrie et des loisirs. 14 mai 1957, je ne cesse d'admirer notre époque. Madame Durand était une femme finie. À l'âge où une quinquagénaire triomphe dans le rock'n'roll, elle se traînait de son lit à son fauteuil Voltaire, desséché jusqu'aux os par la mélancolie. Elle avait l'air d'un pâté de sable écrasé par un grand coup de pelle. Elle ne vivait plus que d'un petit oignon de 3 sous, gros comme une bille, qu'elle faisait tourner dans l'eau tiède sur le coin de son fourneau à gaz. Sombre foyer, triste cuisine. Bref, la mort tenait la queue de la poêle, le désespoir balayait l'escalier. 8 jours plus tard, Madame Dupont la rencontra dans un gala. Elle y brillait de 1000 feux. Elle y brûlait les planches. Qu'était-il arrivé? Quelle pénicilline inconnue? Quelle drogue faustielle recommandée par une voisine de palier avisée? Rien de tout cela. Je n'ose y croire. Mais il faut que ce soit vrai, car je l'ai lu dans un magazine. Elle avait acheté, mesdames, un appareil frigorifique. Tout simplement! Ce teint de lisse arrivait des basses températures. Ce buste lollobrigidien provenait du garde-manger. Avec son frigo, Madame Durand ne descendait plus ses 5 étages tous les jours, ployant sous les choux-fleurs, les escalopes et les macaronis. Elle ne faisait son marché qu'une fois tous les 6 mois et passait le reste du temps à tricoter sur une chaise basse devant ce meuble ripolliné. Son visage lisse, miroir fidèle, reflétait le repos de ses jarrets. Elle avait retrouvé ses 20 ans. Je ne cesse d'admirer notre époque.
10 juin 1958. Résumons-nous. C'est la saison du pédalo. Le pédalo est un trône à pédales qui distingue l'homme du XXe siècle des Romains de l'Antiquité. Le pédalo permet au penseur de réaliser son double rêve, ressembler à Louis XIV en même temps qu'à Louison Bobet. Le plaisir de l'Auvergnat consiste le dimanche à faire du pédalo sur les lacs de cratères. emporté comme en songe sur le miroir des eaux dans un fauteuil de fer ripolliné en blanc, l'homme glisse alors à la surface de l'onde, aérien comme la libellule, va, vient, revient, en égratigne la surface et passe au loin comme un papillon blanc.
Après tant de réjouissances, découvrons à présent l'autre face du progrès. 30 juin 1964. Parmi les calamités, les journaux annoncent les vacances. En grosses manchettes, avec des sous-titres effrayants. Train complet, les embouteillages, les villes-étapes sont engorgées. 100 000 gendarmes sur les routes, 20 hélicoptères, 6 000 trains, 4 ou 5 millions de vacanciers. L'homme fuit les HLM comme l'invasion allemande. Fatigué de faire sécher ses chaussettes au 10e étage, sur une ficelle à une fenêtre de banlieue, il a formé le rêve obsédant de les faire sécher au rez-de-chaussée devant une tente inconfortable dans un camp de 100 000 Parisiens. Il va chercher un terrain vague, quelques orties, un peu de poussière et trois chardons pour y accrocher son transistor et sa ficelle à sécher le linge. Tel est l'espoir de ce père de famille. Il ne va pas en villégiature, il transhume par troupeaux épais.
17 mars 1968. L'industrie date de la plus haute antiquité. Caïn avait une pioche. Ses méfaits également. Il assomma Abel. Mais le PDG, président, directeur général, est le dernier produit de notre époque. Il est né du planning et même du brainstorming, du timing et du marketing pour présider de façon générale dans le vent de l'histoire et de l'expansion. C'est lui qui a droit aux signes extérieurs de la réussite la plus belle, au plus profond fauteuil, à l'acajou, à la peinture abstraite et à la sculpture d'avant-garde en cèpe de vigne. Majestueux, puissant, massif, il fait partie des mammifères les plus pompeux. Il a le cuir velu et la viande rouge, de grosses lunettes et un parapluie. On le photographie sur les plages. Son succès appelle son succès. Il ne fume que les plus gros cigares, que sais-je. Il ne voyage qu'en première dans le métro. Ce n'est pas un génie, c'est un style. On ne lui demande pas tellement d'être un homme efficace que d'adopter un style nouveau. Le franglais, la bougeotte, la dépense de prestige, la réforme ruineuse, l'agitation coûteuse, le vocabulaire impressionnant. Outre les conférences périodiques, se tient, le lundi de la semaine suivant le troisième jeudi, une conférence des conférences afin de fixer les dates exceptionnelles des conférences du mois suivant. Les technocrates sont des hommes résolus qui travaillent sur des statistiques. Le PDG livre ses beaux établissements à un brain trust de grands spécialistes qui y introduisent le programme AIDA. Attention, idée, désir, action. C'est le règne du test, du slogan, des public relations. Ce ne sont que rallyes, balles, réceptions et chasse à cour où nul ne vient sauf des confrères. Il ne reste plus au patron qu'à regarder manger et boire ce troupeau de freluquets voraces comme le vigneron voit la grêle en train de hacher son vignoble.
Grand admirateur de Sempé, comme moi d'ailleurs, c'est à travers les dessins du célèbre illustrateur qu'Alexandre Vialat mesure combien la vie a changé.
Le clairon de l'armistice a coupé le siècle en deux. Après, c'est l'homme, parvenu à lui-même, tel qu'en lui-même l'a transformé le progrès de la science de l'industrie, le bloc évier, la poubelle à pédales, la publicité télévisée. Le Superman, déjà, d'après-demain. Il n'y a d'ailleurs qu'à le voir dans le métro, tel qu'il se rêve sur l'affiche exaltante du dentifrice qui fait luire, sans compter celle de Rapidex, la moulinette de la superfemme. Qui ne voudrait être une superfemme ? Bref, en matière d'information, il n'y a qu'une règle d'or, c'est vendre. Comment un peuple qui achète tout ça, une nation gavée de ses merveilles, ne serait-elle pas fringante, dynamique, bronzée, musclée, déodoré. Aussi se demande-t-on où Sempé, dans son dernier album, a pu prendre ces foules grisâtres, ces troupeaux hébétés, ces masses déliquescentes, ces magmas affaissés qu'il nous montre au hasard, défilant comme au purgatoire dans les longs couloirs du métro, sous l'affiche du slip Apollon, du soutien-gorge Vénus et des vacances au soleil. L'homme de Sempé devient de plus en plus découragé. Ses genoux plient, ses épaules se voûtent, son contour fond comme du beurre au soleil. Il évolue vers une forme animale gélatineuse à la tête molle qui nous ramène bien avant le singe. L'homme de Sempé n'est plus qu'une méduse armée d'un porte-document. Sempé, certainement, aura mal vu. L'homme d'aujourd'hui est enfin un homme libre qui achète tout ce qu'on lui dit d'acheter et qui consomme tout ce qu'on lui impose. La machine travaille pour lui, sa vie est faite d'éternelles vacances. Il ne saurait plus se fatiguer. Et avant l'armistice, c'était bien différent. L'homme se cherchait dans les ténèbres, entre la lampe pigeon, la poubelle sans pédale, l'évier sans bloc et le cinéma sans voix. Il lavait lui-même la vaisselle. Les fruits n'avaient pas de vitamines. Il se baignait seul sur les plages et les routes étaient tellement vides que l'homme pouvait circuler à pied, à cheval et même à bicyclette. Bref, on se demande ce qu'il pouvait faire. Aujourd'hui, la vie a un sens, il faut épousseter son auto. Que pouvait faire l'homme sans auto à laver ? La vie se vivait au loin sans lui. Heureusement, le progrès a changé toutes ces choses. Et c'est ainsi qu'Allah est grand.
Découvrons à présent une autre facette du talent d'Alexandre Vialat où il se fait volontiers ethnologue. Voici un extrait de ses fameuses chroniques de la ville et de la campagne où il observe les mœurs nouvelles de la civilisation urbaine. L'habitation date de la plus haute antiquité. Elle protège l'homme. Il l'a bâtie loin des bêtes sauvages. Il fait de gros murs et de toutes petites portes. Il met un pot de fleurs sur la fenêtre. Dans ces excellentes conditions, la civilisation fleurit. L'homme invente la brouette, le pôle Nord, le téléphone, le subjonctif, la Légion d'honneur, que sais-je. Il complique la cuisine, il complique la grammaire, il se passionne pour la science des hommes, il met des persiennes à sa fenêtre et par les fentes, il observe son voisin. Il le connaît bientôt mieux que lui-même. Il lui écrit des lettres anonymes, tout le monde se bat, il rit sous cap. La vie devient passionnante comme une bande dessinée. Cependant, le souci d'échapper aux bêtes fauves tracasse l'homme de plus en plus fort. Il bâtit des maisons qui sont de plus en plus hautes. Il loge au 25e étage, ce qui accroît consécutivement la sécurité de l'homme à l'heure du crépuscule où les bêtes commencent à rôder. La même terreur avait dicté l'architecture des cités lacustres. En se logeant au-dessus des étangs, dans des maisons à pilotis, on se mettait à l'abri des morsures de poissons. Toute l'architecture ultérieure, la hutte gauloise, le temple grec, le château fort, le chalet suisse, la tour Eiffel, n'ont fait que perfectionner ce schéma. C'est ainsi que, de fil en aiguille, par des modifications successives dictées par la plus sage raison, on en est venu aux HLM, qui sont l'orgueil des urbanistes de notre époque. C'est ainsi que la peur du loup a créé les HLM. Maintenant, il n'y a plus de maison, mais ce placard nu, cette tombe, ce désert de la soif, bref, cette aventure saharienne qu'on appelle HLM, où l'homme meurt de claustrophobie par un record du paradoxe au sein d'un vide illimité. Et c'est ainsi qu'Allah est grand. Témoin de son époque, Alexandre Vialat l'est aussi des événements internationaux. Mais son contrat pour la montagne précise qu'il peut aborder tous les sujets, sauf la politique. Voici comment le journaliste s'empare d'un sujet brûlant en le tournant à l'absurde. Nous voici en pleine guerre froide ou en pleine parodie de science-fiction.
10 novembre 1968. Que fait l'homme dans les villes ? Il s'exalte pour sa patrie. D'autrefois, s'étant mis au service de quelque puissance étrangère, il prend une brouette de jardin et va chercher dans un hangar secret la dernière fusée nucléaire que le monde jalouse à sa patrie. Il la porte jusqu'à l'auto qui l'attend sur le bord de la route. Comme la fusée a 3 mètres de long et qu'elle ne tient pas tout entière, il casse la glace arrière et la recharge habilement. Malheureusement, l'ogive dépasse. Il l'enroule dans un grand tapis. Il traverse ainsi toute l'Allemagne, se ravitaillant au grand jour chez les distributeurs d'essence et demandant son chemin. Puis, il arrive chez son complice qui dévisse la fusée en trois, met les gros morceaux dans une malle et jette pêle-mêle les petits restants dans une valise. Il envoie par avion la malle et la valise à ses employeurs du Kremlin comme si c'était des caisses d'oranges. Puis il remet la brouette en place, si bien que tout le monde n'y voit que du feu. Telle est la vie fiévreuse des grandes villes. Le Parisien ne s'active pas moins. Le coiffeur coiffe, le boulanger boulange, le contractuel sévit, l'autobus s'embouteille, le piéton passe, la jeune fille se maquille, le professeur enseigne quand il peut, l'étudiant l'écoute quand il veut, le commerçant vend tant qu'il peut. L'homme attend toujours l'autobus 27 sous une pluie fine.
Attardons-nous encore un peu en cette année 1968. Longtemps silencieux à propos des événements de mai, Alexandre Vialat ne se prononce qu'à la fin de l'année. Voici cette chronique du 15 décembre 68. La France s'ennuie, disait un ministre de Louis-Philippe. C'est certainement l'une des raisons qui ont provoqué les barricades du dernier printemps. Les HLM où les gens s'ignorent provoquent par l'ennui des névroses qui peuvent mener à la folie. La civilisation dite de consommation, qui n'a pas encore trouvé son antidote, amène à l'exaspération. Et le loisir, peu de gens le supportent. Il faut qu'on le leur organise et qu'on les persuade qu'ils s'amusent. Le progrès n'est pas tout rose. Le progrès, c'est l'ennui. Bref, la jeunesse s'est fabriquée un événement. Elle s'est donnée une fête. Le pique-nique, la bagarre et les hauts feux de joie de l'incendie. Les murs couverts de graffitis, les murs récités du Rimbaud et des maximes surréalistes. Nous voulions faire chanter la ville, nous avons fait chanter la ville. Surboom géante, rêve de beatnik, le théâtre était dans la rue, une grande explosion poétique. Les générations précédentes étaient saturées d'événements. Verdun, l'Espagne, Hiroshima, l'Exode, l'Indochine, l'Algérie, Hitler, les camps, que sais-je. C'était beaucoup. Elles rêvaient d'une halte. Les jeunes rêvaient de se dégourdir. Ils ont voulu dater eux aussi de quelque chose, d'un événement qui les révèle à eux-mêmes. Ils l'ont vécu avec excitation, grisé, ébloui, émerveillé, avec un terrible sérieux, disons même avec naïveté. Ajoutons même avec littérature, il en est d'extrêmement doué, avec fièvre et avec emphase, avec auto-admiration. Ils se sont étonnés d'eux-mêmes, ils en ont fait un événement mythologique, une grande explosion poétique. Que restera-t-il de l'événement ? Les événements ne sont rien. Ce qui compte, c'est leur légende. La façon dont on les raconte, nous en sommes à l'époque lyrique. Tout dépendra des gouvernements, de l'intérêt qu'auront les plus forts à minimiser l'aventure ou à en faire dater la naissance de leur règne. Et c'est ainsi qu'Allah est grand.
Quand j'étais gosse haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie, on oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais, seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Ça peut pas faire de mal.
Philosophe Alexandre Vialat aborde aussi l'homme en ethnologue, nous l'avons vu, mais aussi en zoologue. Si Pascal, l'auteur des Pensées, est l'une des idoles de Vialat, c'est qu'il est lui aussi originaire d'Auvergne. La légende raconte que Pascal aurait inventé le thermomètre en haut du Puy-de-Dôme. Du haut de son appartement parisien dans le 13e arrondissement, Vialat, lui, a une vue plongeante sur les toits de la prison de la Santé. Voici quels drôles d'oiseaux sont pour lui ses contemporains. Et je vous cède à nouveau la parole, François Morel, vous qui avez une affection particulière pour ce passage.
L'oiseau le plus rare, l'échassier le plus étrange, avec son grand bec d'accipitre, son cou de vautour, ses ailes rognées, son chapeau mou et son porte-document, c'est peut-être l'homme. Mille détails prouvent qu'il existe. Des géographes l'ont trouvé fréquemment au coin du boulevard Arago, sur le trottoir de la rue de la Glacière. Il y attend l'autobus 28. Il se reconnaît à son parapluie noir, son pardessus de couleur foncée, sa longue patience. On sent bien qu'il regrette ses ailes. Et c'est ainsi qu'Allah est grand.
Voici à présent une autre définition de l'homme selon Vialat qui a inspiré Pierre Desproges. L'homme vient du singe, dit-on, et il va au cimetière. Telle serait sa zoologie. Que fait-il en chemin ? De tout. Des zigzags, l'école buissonnière. Il se gratte le nez, il se lave les pieds, il fait empailler ses ministres, il accroche les morts aux sonnettes. Une fois, il a déterré le pape. On voit là que l'homme venu du singe y retourne assez volontiers. Poursuivons en découvrant maintenant les personnalités auxquelles Alexandre Vialat rend hommage.
24 juillet 1959. L'été délire sur la Provence. Mon ami Henri Pourra est mort jeudi. Mais qui le croirait ? On ne part pas par un tel soleil. Maintenant, la radio le dit, c'est un fait accompli. Désormais, les jardins ne sont plus qu'un verre vide. Et c'est un peu comme si Virgile, une fois de plus, était mort.
17 avril 1963. Il fait froid. On court au cinéma. Gabin et Fernandel y brillent. Gabin, dans Mélodie en sous-sol, joue à peu près immobile. Il pense avec son poids. Son dos surtout est prodigieux. Il raconte un passé, il campe un personnage. Quant à Fernandel, c'est un singe. Je le dis en toute admiration. Que peut-on dire de mieux d'un acteur ?
15 octobre 1963. Piaf et Cocteau. Deux affiches parisiennes. Des souffrances, de la gloire, des amitiés, du cœur. Beaucoup de légendes, du génie, du snobisme. Une trace dans le siècle, une ride qui ne passera pas tout de suite à la surface indifférente des eaux.
12 février 1967. Ce qu'on peut encore faire si on aime les grandes choses, c'est lire Dino Buzzati. S'il n'y avait pas eu Franz Kafka, ce serait le plus passionnant des écrivains du siècle. Buzzati, c'est Kafka et Fellini. Découvrons à présent l'une des dernières chroniques rédigées par Alexandre Vialat. Elle rend hommage quelques mois après sa mort au général de Gaulle. Voici cette chronique numéro 898, datée du 11 avril 1971.
On meurt beaucoup ces temps derniers. Le général de Gaulle avait une certaine idée de la France. C'est que la France, c'était lui. Et ce fut vrai un moment, qui fait de lui un grand homme. C'était à Londres, il était seul. La France, c'était devant lui deux tables en bois blanc, auxquelles s'ajoutèrent par la suite quelques pêcheurs de l'île de Sein. Il méritait par là d'entrer dans la légende. Les grands portraits vont rarement sans grandes ombres. Et le portrait vrai d'un homme dans la littérature, c'est cette forme mouvante, vivante, qui palpite dans l'intervalle qui sépare sa caricature de son idéalisation. C'est dans cette marge qu'il respire. Nous naviguons entre deux partis pris. Il en reste l'image d'un vieil homme gigantesque, seul entre le sol et les étoiles, ministre du vent, des nuages, des chimères et de sa solitude, né autrefois d'un geste immense qui va s'enfoncer dans la nuit. Bref, une ombre michel-angelesque. Encore une fois, c'est admirable. Et c'est ainsi qu'Allah est grand.
Pour conclure, donnons le mot de la fin à un artiste aussi notoirement méconnu que fut Alexandre Vialat de son vivant. Quittons les chroniques de la montagne pour Le spectacle du monde, revue pour laquelle Vialat écrivit de 1962 à 1971. Son tout dernier article est consacré à un certain Philippe Dereux, artiste plasticien qui fut l'ami de Jean Dubuffet et son chasseur de papillons attitré. Avec lui, Vialat parachève son œuvre par une ultime démonstration de l'absurde. Philippe Dereux, dans le monde des arts, continue à faire triompher les plus chers. Depuis 10 ans, il colle sur une toile des épluchures de figues, de pommes de terre, de carottes, d'abricots, et en fait des tableaux. Il en a tiré une méthode, une technique, une philosophie. Chacun épluche à sa façon, ce qui lui a permis de mettre sur pied toute une caractérologie. Dis-moi comment tu épluches, je te dirai qui tu es. Il y aura la peinture d'avant les épluchures et la peinture d'après l'épluchure de carottes. Se douterait-on qu'elle est contestataire parce qu'elle utilise un matériau d'origine agricole à une époque d'industrie forcenée ? Peut-être suffit-il après tout de mettre de l'ail dans le gigot pour faire partie d'une avant-garde politique. Mais je crois plutôt que la promotion des épluchures, qui régit aujourd'hui notre civilisation, est un phénomène trop banal pour marquer un changement d'époque. Notre civilisation glisse sur des peaux de banane. C'est le présent. Est-ce vraiment l'avenir ?
Et c'est ainsi qu'Allah est grand.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission réalisée par Xavier Pestudia avec Benjamin Vignal à la technique a été préparée par Estelle Gap, Perrine Malinge et Claire Tesser. Vous pouvez trouver les chroniques de la montagne et tous les articles de presse d'Alexandre Vialat dans la collection Bouquins chez Robert Laffont. Un grand merci à vous, François Morel.
Merci, Guillaume.
On vous retrouve avec grand plaisir chaque vendredi matin à 8h55 sur France Inter, dans la matinale. Je rappelle que toutes vos chroniques, à vous, depuis 2009, sont publiées chez De Noël. Votre dernier titre, « Jamais la même chose », est un hymne à la bonne humeur. Je vous le recommande vivement. Vous êtes actuellement aussi en tournée dans toute la France avec le concert « La vie, titre provisoire ». Une tournée qui s'achèvera le 4 mai dans la salle mythique de l'Olympia.
Ouais.
Wow. Bonne soirée, à la semaine prochaine.